Bonjour à toutes et tous, j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait une grande foule et tout. Donc voilà, merci d'être là et de vous intéresser un peu à ce qu'on fait. C'est sûr que le mois de juin, et en plus il fait pas trop moche aujourd'hui, c'est pas le meilleur créneau dans tous les cas pour venir s'enfermer comme ça dans une salle. Mais bon, on va le faire quand même et puis on est quand même content d'être là, de pouvoir échanger, même si c'est en petit comité. Alors, je me présente, je suis Maxime Michaud, responsable, co-responsable de la chaire Tralim, qui transition alimentaire, qui est partagée entre l'Institut Paul Bocuse et l'Université Lumière Lyon 2. Donc, moi, je suis responsable du groupe de recherche en sciences sociales au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. C'est un peu long, mais. Et donc, juste deux mots sur la chaire. L'idée la chaire, quand on l'a créée, c'était de regrouper les forces vives au niveau des chercheurs, des enseignants-chercheurs de l'Université Lyon 2 et puis du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse pour accompagner les transitions alimentaires d'aujourd'hui, mais en s'appuyant aussi sur les connaissances de celles d'hier et puis de celles qui se font ailleurs. Et puis voilà, donc accompagner tous les acteurs parce qu'il y a besoin aussi de produire de la connaissance, de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Pour aussi pouvoir choisir dans quelle direction on a envie d'aller. Et puis aussi pour former les experts ou les futurs acteurs de l'alimentation de demain, qu'ils soient à l'Institut Paul Bocuse ou à l'Université Lyon 2. Et puis enfin aussi pour communiquer et échanger avec le grand public, comme c'est avec le grand public, j'entends n'importe qui, ou aussi bien des institutions que des entreprises, que des gens, ou même des enfants. Donc comme c'est l'objet, par exemple, de ces amuse-bouches, donc c'est le quatrième amuse-bouche, et le dernier de l'année, de la saison, j'ai envie de dire, comme si on était en football, mais non, de l'année. Et voilà, c'était un petit test, et on est très content finalement du résultat, même si va falloir qu'on développe, mais c'est des échanges qu'en tout cas, moi j'ai trouvé très fructueux et intéressants. Donc le dernier est organisé par Étienne Faugier, qui est responsable de l'axe dynamique des territoires et. Non. Et, non, dynamique alimentaire et diversité des territoires. Ça y est, j'ai réussi à tout dire. Donc c'est sur cette thématique qu'il a voulu parler aujourd'hui, en parlant notamment des questions de local et global, des différences d'échelle au niveau territorial. Voilà, Étienne, je te laisse la parole. Voilà, j'ai fait mon boulot. C'est à toi et à tes invités.
Merci, merci Maxime. Merci à vous d'être présents et présentes. Peut-être qu'on peut, comme Carole, tu suggérais, essayer d'en savoir un peu plus sur vous qui êtes là, comme ça nous permettra d'orienter peut-être un peu les discussions, en se présentant très rapidement, juste un peu vos fonctions peut-être, et puis si vous souhaitez dire autre chose parmi vous. Alors, bon, je précise qu'on est enregistré, donc peut-être que vous ne voulez pas être enregistré, donc si vous voulez pas le micro, je ne suis pas obligé de vous le donner et vous parler fort, ou vous préférez que je vous passe le micro, comme vous le souhaitez, et après on présentera peut-être les intervenants dans cet ordre-là. Christian, tu veux commencer ou tu... Et spécialiste du monde rural et lyonnais, effectivement. Madame? Monsieur derrière Maxime. Il y en a parmi nous des géographes, c'est pas grave. Très bien. Merci, merci beaucoup pour vous être prêté à l'exercice. Donc on va aussi le faire pour nous. Donc Étienne Faugé, donc je suis maître de conférence au département de tourisme, historien de formation. Mes champs d'intérêt, c'est plutôt les transports et la mobilité. Et donc je suis responsable, coordinateur précisément, donc de l'axe dynamique alimentaire et diversité des territoires. Et puis donc pour cet axe-là, avec l'accord de nos collègues et de Béatrice et puis donc de Maxime et d'autres, on a essayé de construire cette séance avec donc différents acteurs, à la fois du milieu universitaire et du monde socio-professionnel. Peut-être que chacun se présente, ou vous voulez que je vous présente? Enfin, je peux vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Nicolas, tu veux peut-être commencer?
Donc Nicolas Mourgeon, je suis directeur d'une association qui s'appelle Le Lyonnais Monts et Coteaux, qui valorise les productions alimentaires des monts du Lyonnais. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le milieu des circuits courts, que ce soit à la vente, à la promotion ou à des projets de développement sur ces questions de circuits courts. Et ça fait maintenant quelques années que j'interviens donc en licence pro et en master sur les questions de produits du terroir. Et depuis 2 ans, 3 ans, je suis maintenant responsable pédagogique d'une licence pro, produits des terroirs, circuits courts et gastronomie.
Voilà, ça va marcher, ça marche ? Ça marche, ouais. Ok, alors moi je suis Carole Chazoul, alors je suis enseignante-chercheure à l'ISARA, donc je suis socio-économiste, donc mon travail c'est de former des jeunes ingénieurs qui vont être diplômés de l'ISARA, donc qui vont avoir comme diplôme un diplôme en agriculture, agroalimentaire, environnement, développement durable, donc voilà, c'est un peu vaste, mais c'est un diplôme d'ingénieur. Et puis je viens aussi de la filière des ingénieurs parce que j'ai été formée à Supagro Montpellier. Voilà, je travaille depuis très longtemps sur la question des systèmes alimentaires et sur toutes les alternatives, enfin sur les différentes formes d'alternatives qu'on peut trouver au système alimentaire conventionnel. Voilà, donc dans ma carrière, j'ai commencé par travailler sur les indications géographiques. Et comme j'ai une appétence pour l'international, sur le développement des indications géographiques au Canada, ce qui était assez passionnant. Après, j'ai travaillé sur les circuits courts avec Béatrice, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années. Et comme j'aime toujours faire un peu des choses un peu décalées, assez vite, je me suis dit, les circuits courts, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, donc je vais travailler plutôt sur les circuits courts un peu différents, donc les circuits courts intermédiaires, c'est-à-dire avec des intermédiaires, ce qui nous a amené à formaliser à l'ISARA une notion qu'on a appelée SIAM pour système alimentaire du milieu. Donc les systèmes alimentaires du milieu, je pourrais en parler tout à l'heure, c'est des circuits qui vise un partenariat éthique entre les différents acteurs qui sont dans ces circuits. Voilà. Donc ça vient des travaux américains autour de l'agriculture du milieu et les value-based supply chain qu'on a repris, et de tous les travaux européens sur les processus de scaling up et de massification des circuits courts. Voilà, pour faire très court. Et puis je travaille de plus en plus sur la question de l'alimentation aussi et des transitions alimentaires. Notamment autour des questions de justice alimentaire. Je commence un tout petit peu à y aller. Voilà.
Donc, Gilles Fumé, je suis géographe, enseignant-chercheur à Sorbonne Université, où j'ai monté un master qui s'appelle donc Alimentation et culture alimentaire, donc plutôt pour des gens de sciences sociales qui voulaient qui veulent travailler dans le secteur agroalimentaire. Et voilà, transition agroalimentaire. Voilà. Le sujet de ce soir, j'ai écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle Manger local, manger global. Et je ne sais toujours pas ce que c'est que manger local, donc je viens chez vous. Voilà, je suis originaire du Jura, berceau du comté, voilà, où j'ai un père qui vendait du comté à des Russes et des Américains quand j'étais enfant. Voilà. Ce qui m'a orienté sur ces questions-là.
Merci Gilles. Je cherchais là en même temps, tu es aussi responsable d'un séminaire avec Jean-Pierre Villiot qui sera disponible lundi. Donc c'est sur l'arc fruitier du Jura d'ailleurs, je crois, la séance. Voilà, donc qui sera en ligne. C'est pas toi qui l'invité, c'est ça. Et donc c'est en ligne, je crois, entre lundi, donc entre 10h et midi. lundi 10h à midi, donc il y a des choses qui peuvent intéresser, parce que j'ai vu passer l'appel et je pense que ça peut intéresser d'autres gens ici présents. Donc voilà pour les présentations et merci à chacun d'entre vous d'être venu et de vous être rendu disponible pour cette séance. L'idée étant de, dans la manière dont moi je l'ai pensé et en ayant vu les collègues précédents qui ont fait des amuse-bouches, c'était d'essayer de voir un peu ce qu'on pouvait, ce qu'il y avait derrière cette taxe que l'on va ne faire qu'entreapercevoir sur les dynamiques alimentaires, la diversité des territoires, et donc travailler un peu, enfin, et discuter avec vous et avec nos invités sur, comme l'a dit Maxime, le local, le global, les tensions, les complémentarités, et parfois même les ignorances. Donc on a, avec, en collaboration avec tous les trois, on a essayé de partir sur des éléments de circuit court, et on pourra prendre des questions rapidement effectivement entre temps. Donc on a prévu trois grandes questions. Donc peut-être la première thématique, c'est d'évoquer ce que sont les circuits courts, de définir un peu ça avec nos intervenants, puisqu'on parle aussi de, vous avez beaucoup parlé de projets alimentaires territoriaux, donc ça peut être parfois en lien, parfois pas. Donc essayer de revenir sur ce que sont que les circuits courts, de quand ils datent, qu'est-ce qu'on entend par circuit court, est-ce que c'est une réponse à la mondialisation ou contre la mondialisation, et c'est mieux là même plus. Et est-ce que c'est un besoin des producteurs qui a créé ce concept, ou est-ce que c'est un besoin des consommateurs? Est-ce que c'est plutôt à destination ou pour l'agriculture biologique ou pour l'agriculture industrielle? Voilà, un peu ces premières questions pour défricher ce que sont les circuits courts et ensuite élargir à ce que Carole a évoqué, c'est-à-dire les circuits intermédiaires, voire intermédiaires, j'ai bien entendu, et circuits longs, et ensuite on abordera les enjeux plutôt plus larges de transition alimentaire. Donc voilà un peu le planning de cette séance. Peut-être Carole ou Gilles, sur la définition de circuit court, ce dont vous entendez, est-ce qu'il y a déjà un consensus sur cette définition? Tu peux,
Carole? Bon, je vais pas vous dire ce que c'est qu'un circuit court, je crois, vu la population qu'on a en face de moi. De nous, je pense que vous avez tous la définition officielle de ce qu'est un circuit court, hein, c'est-à-dire pas plus d'un intermédiaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc moi, j'ai tendance à dire que les circuits courts, en général, ce sont des lieux de reconnexion. Si on part du principe que les systèmes alimentaires agro-industriels ont été des lieux de déconnexion, et notamment des lieux de déconnexion entre des bassins de consommation et des bassins de production, l'idée du circuit court, c'est quand même d'essayer de reconnecter, même s'il n'y a pas de local dans le circuit court, des bassins de production et des bassins de consommation. Essayer de les reconnecter à travers différentes proximités, des proximités géographiques, hein, voilà. C'est quand même plus facile quand on est à côté. Des proximités relationnelles, puisqu'on se connaît, on se parle, on développe de la confiance, on sait ce que fait l'autre. Des proximités politiques, dans le sens où, souvent le circuit court, malgré tout, a été considéré comme une alternative au modèle agro-industriel, et qu'il s'est développé comme une alternative au modèle agro-industriel, notamment au Japon, où il a quand même un peu émergé, et aux États-Unis aussi, d'ailleurs, au début des années 2000, si on veut faire un tout petit peu d'historique. Et puis aussi, finalement, un lieu de reconnexion autour du produit et de reconnexion à son territoire. C'est-à-dire comprendre ce qu'on mange, comprendre comment ce qu'on mange a été produit et comprendre les liens entre le produit et le territoire. Donc au final, dans le circuit court, il peut y avoir tout ça, mais il peut y avoir aussi beaucoup moins. Donc ça dépend un peu de ce qu'on en fait et ça dépend un peu de ce que les collectifs et les organisations qui les développent en font. Bon, par exemple, une AMAP, ça peut être différent d'un système de panier qui est porté par un entrepreneur local. Voilà, parce que d'un côté, il y a une charte, de l'autre côté, il n'y en a pas forcément. Donc, c'est quand même un espèce d'ensemble un peu fourre-tout dans lequel on peut mettre différentes choses. Et avec une définition assez large. Je vois que peut-être Nicolas, tu oui. veux dire des choses.
Non, en fait, je peux peut-être juste préciser que j'ai entendu un jour un directeur de Carrefour disant que Reflet de France c'était quelque chose qui pouvait aller dans les circuits courts. En fait, ça va pas, c'est pas du tout dans ce qu'on même si effectivement c'est français, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment quelque chose, je crois que Carole l'a souligné, qui vient des partait de la question que tu as posée, qui vient des consommateurs. C'est vraiment un point de départ qui est au Japon, donc une catastrophe sanitaire, et puis aux États-Unis, quelque chose qui était lié à notre. Mais en France, c'est vraiment ça, c'est les consommateurs, avec en particulier deux personnes qui ont monté les AMAP et qui ensuite ont prospéré.
Sur les circuits courts, peut-être moi davantage parler des Monts du Lyonnais, les circuits courts dans les Monts du Lyonnais pour illustrer un exemple d'un territoire, un côté un peu pratique. Donc les Monts du Lyonnais, hein, à peu près 150 000 habitants dans l'ouest de Lyon, entre Lyon, Saint-Étienne et Roanne, une petite bosse, un petit massif, un verger. Voilà, il y a à peu près 1500 exploitations agricoles, dont deux tiers qui vendent en circuit court. Donc finalement une localisation assez avantageuse pour faire du circuit court, puisqu'a priori il y a une proximité quand même physique importante avec de gros bassins de consommation. Dans les coteaux du Lyonnais, beaucoup de vergers, de petits fruits, et en haut beaucoup d'éleveurs laitiers. Et finalement, ce qu'il y a de marrant, c'est que on a accompagné des collectivités sur le développement des circuits courts, comment on allait faire à l'avenir. Et finalement, on a beaucoup parlé de ces questions des circuits intermédiaires, en se disant que les circuits courts, finalement, ça avait été quand même pas mal bossé. Il y a des choses nouvelles, on voit de nouveaux acteurs, bref, mais en tout cas que ça roulait globalement de ce côté-là. Et puis là, on est heurté depuis quelques mois sur ce sujet-là, où on voit des baisses importantes en fait, des ventes en circuit court, chose qu'on croyait être un peu sanctuarisée, entre guillemets, que ce soit les marchés de plein vent, que ce soit les épiceries, que ce soit les magasins de producteurs, que ce soit des points de vente divers et variés. Et voilà, donc finalement, ce qu'on croyait être le circuit court comme quelque chose de connu, carré, qui fonctionne, est finalement mis à mal, en tout cas depuis une dizaine de mois, donc pas que depuis les événements de février, mais une dizaine de mois dans les Monts du Lyonnais.
Comme l'agriculture biologique d'ailleurs en ce moment.
Oui, il y avait cette chose-là. Moi, j'avais noté qu'en 2019, c'était 80, donc avant pendant le confinement, 89% des Français se déclaraient avoir confiance dans les circuits courts. Il serait intéressant de voir maintenant s'il y a eu, avec le déconfinement et confinement-déconfinement, une augmentation de la confiance dans les circuits courts. On l'évoquait avec Nicolas avant, le tourisme, pour mon cas, me concerne triple, et pourtant l'alimentation, elle, semble, pour les circuits courts, un peu déclinée. Donc où est-ce qu'on se retrouve dans ces enjeux-là? Et même, Gilles, tu parlais dans nos échanges auparavant, sur l'alimentation dans les restaurants, qui avait aussi un petit déclin de ces enjeux-là. Peut-être que tu veux en dire deux mots, très rapidement.
Non, mais on sait qu'il y a une grande offensive de l'industrie agroalimentaire envers les restaurants, hein, pour essayer de faire gagner du temps, parce qu'il est difficile de trouver du personnel, de dire mais vous n'avez pas besoin de tout ce monde-là, puisque en achetant des produits industriels, vous allez pouvoir vous simplifier la tâche. Donc il y a effectivement quelque chose en sous-main, hein, qui est justement au nom de la simplification du travail, une perte de cuisine, proprement du produit cuisiné dans les restaurants.
Mais ce qui est intéressant pour reprendre, c'est qu'on voit aussi un glissement dans la sémantique. Très clairement, on a parlé des alternatives qui étaient liées au circuit court. Maintenant, on a vu émerger le mot résilience, on l'a vu beaucoup. Donc c'est aussi venu un petit peu remplacer quelque part l'alternative, c'est-à-dire il y a des crises, donc forcément il faut trouver des moyens pour créer de la résilience. Cette résilience, comment est-ce qu'on la crée, avec quoi, et effectivement sur quoi est-ce qu'elle s'appuie? Donc ça, c'est des nouveaux débats en fait qui sont apparus dans la société, qui sont apparus dans le monde scientifique, dans le monde professionnel. Peut-être que au niveau des consommateurs, ce qui est intéressant, ce qui peut vous poser la question, c'est la question qu'on... L'enjeu autour des circuits courts, c'est toujours de dire, finalement, le consommateur, il va reprendre en main son destin avec le circuit court, il va changer son alimentation, il va aller vers une transition. Et finalement, ça fait porter beaucoup de choses sur les épaules du consommateur, parce que le consommateur, d'une part, il n'a pas toujours le choix, il faut quand même dire la vérité, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue culturel, Il ne sait pas toujours même ce que c'est qu'un circuit court, suivant les catégories de population auxquelles on s'adresse. Donc, il n'a pas toujours le choix. Il n'a pas toujours le choix de mieux manger. Et finalement, moi, ce que j'aime bien dans la notion de résilience, quelque part, c'est que ça vient chercher aussi le politique. Et la question du politique, aujourd'hui, elle doit se poser dans ce débat-là qu'on est en train d'avoir aussi, parce que c'est circuit court, mais c'est résilience, c'est transition. C'est comment est-ce que le politique, aujourd'hui, il peut venir un peu apporter un soutien à ces transitions et justement faire en sorte d'appuyer le consommateur dans ces transitions. De l'appuyer, que ce soit financièrement ou que ce soit aussi culturellement, en lui donnant accès à une alimentation de qualité. Et quelque part, donner accès à une alimentation de qualité, c'est aussi changer un modèle économique sur lequel on est depuis 50 ans, hein, qui est un modèle agro-industriel, et qu'on voit revenir avec la guerre en Ukraine d'une façon considérable, enfin, de façon très très forte. Aujourd'hui, la question c'est comment est-ce qu'on va être autosuffisant, comment est-ce qu'on va produire du blé, où ça, dans quelle plaine, avec combien de tonnes de pesticides. On se pose moins les mêmes questions, enfin, on voit que le champ des questions a changé aussi. Et donc forcément, pour le consommateur auquel on dit à longueur de journée que manger bien, de qualité, ça coûte cher, ah ben peut-être que c'est pas forcément étonnant de voir qu'il y a un repli sur des choses un peu plus marketing, on va dire, avec des grandes surfaces qui leur disent « Ben non, mais venez chez nous, vous mangerez pas cher, nous on va vous trouver des solutions. » Là-dessus, assez forte.
Si on dissocie mangeur de consommateur, en fait, on a deux personnes différentes. Le consommateur est un acheteur. Donc, c'est quelqu'un qui se fait plaisir par l'achat. Déjà, avant même de manger, il a fait une bonne affaire au magasin. Et puis ensuite, vous savez, on mange beaucoup avec le regard. Donc, regardez la jouissance des gens avec leur chariot plein au supermarché. Hein, c'est quelque chose qui est très, très frappant. Alors que, le consommateur, c'est un acheteur. Alors, il prend plaisir à acheter n'importe quoi. Et l'alimentation fait partie de son plaisir. Le mangeur, et notamment celui du circuit court, c'est un militant. C'est complètement autre chose. Moi, quand je vais chercher mes légumes à la MAP, j'ai pas vraiment de plaisir parce que c'est toujours une heure où ça m'arrange pas, parce que je sais pas quoi, parce qu'il y a pas ce qu'il faut. Voilà. C'est vraiment militant, c'est autre chose. Hein, la récompense, elle vient après, mais il y a un moment, il faut mouiller sa chemise. Quoi.
Oui, et je pensais, en revenant à ce que tu dis et ce que Carole, tu disais, sur la résilience, la crise et le choix qu'on a, peut-être Nicolas, toi tu évoquais cette question de la crise, alors plus largement crise climatique, mais dans la notion de circuit court, il n'y a pas de notion de géographie. Et est-ce que finalement, circuit court veut dire respect ou localisé et finalement des circuits de courte distance? Et je pense que Nicolas, toi, avec ta marque, tu peux peut-être évoquer des choses sur les enjeux de distance. Et finalement, peut-être qu'il y a une première tension, un premier aveuglement en disant, quand on dit circuit court, on a tendance à avoir du direct, du proche, et c'est pas nécessairement du local ou du localisé.
Cette question d'échelle, on la retrouve dans plein de sujets différents sur ces questions de circuits courts. Donc évidemment, les circuits courts peuvent être à des milliers de kilomètres dans la définition, mais dans la tête du consommateur, circuit court, c'est plus proche que ça. Et donc sur la question du local, est-ce que le local, c'est de la qualité? Donc chaque consommateur aura tendance à avoir une réponse différente, mais quand même à considérer positivement, de plus en plus, le local, on le ressent. Mais après, pour faire le lien, par exemple, avec la question des territoires, la marque pour laquelle je travaille, donc qui regroupe des agriculteurs, notamment des transformateurs, il y a eu beaucoup de questions sur la qualité, quelle qualité on veut défendre, quel cahier des charges on peut avoir derrière, puisque nous, on signifie par cette marque un ancrage territorial, mais quoi d'autre ? Et là, il y a eu beaucoup de débats et de discussions. Donc, sont partie prenante de cette marque des élus locaux, les collectivités locales qui participent au financement de ces structures. Donc là, il y a eu beaucoup de discussions entre avoir quelque chose, finalement, des critères assez larges et ouverts pour être plutôt inclusif et embarquer le plus de monde possible dans des démarches collectives et des gens qui étaient plutôt tenants d'aller vers des critères plus restrictifs avec une vision, on va dire, relativement on va dire précise de ce qu'est la qualité en matière de critères évaluables. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans ce qu'on voit nous glisser, c'est qu'il y avait au départ, on parlait beaucoup dans ces cahiers des charges de pratiques au niveau de ce qu'on mettait comme engrais, comme pesticides ou autres. Et maintenant, on voit plutôt l'intérêt glisser sur la question de la gestion de l'eau. Comment est-ce qu'on gère la ressource en eau? Est-ce que maintenant, il y a une notion plutôt d'équitable, on va dire, de juste rémunération des producteurs? Et on voit petit à petit, on est en train de glisser, en tout cas pour ce qu'on fait dans les monts du Lyonnais, de critères très techniques au niveau de la production, à des choses vraiment qui touchent à cette question de rémunération. Donc on se pose beaucoup de questions avec le commerce équitable, donc Nord-Nord, hein, avec il y a pas mal de labels qui sont en train de monter en puissance. Donc comment est-ce qu'on intègre ça au niveau de nos territoires? Comment est-ce qu'on peut rendre compte, notamment au niveau de l'environnement, la question de finalement des rejets de carbone liés à la logistique? Et on sait qu'en circuit court, c'est pas toujours la panacée au niveau de finalement du bilan carbone du transport. Quand une camionnette remonte à vide, c'est vraiment pas terrible. Donc comment on rend compte de ces évolutions-là au sein d'une marque pour le consommateur, dont on sent que c'est des préoccupations qui montent, en tout cas pour ce qu'on ressent, davantage que ces questions en termes d'engrais, de pesticides ou autres?
Et juste pour compléter, dans le projet SIAM, là, on a formalisé une notion qu'on a appelée le cahier des charges du bien et du lien. Le cahier des charges du bien et du lien. Parce que, en fait, ce que tu racontes, c'est aussi un cas qu'on a eu avec l'Isère, hein, et la marque Isère, dans laquelle ça a été, je pense, un des premiers, où ils ont commencé à réfléchir à la qualification du produit en termes de provenance. Donc, tous les produits qualifiés par la marque viennent de l'Isère. Ils ont aussi réfléchi en termes de, on va dire, amélioration des pratiques productives pour aller vers plus d'agroécologie avec une incitation à faire évoluer leurs agriculteurs, notamment sur des questions de HVE, etc. Donc ça, c'est plutôt sur le bien, en fait, sur le produit en lui-même qui est vendu par la marque, mais aussi le lien. Et le lien, justement, il a porté sur les questions de rémunération, qui sont des choses, en fait, qu'on avait apportées dans le projet SIAM, puisque l'Isère faisait partie des acteurs avec lesquels on a travaillé dans le projet SIAM, qu'on avait mis en discussion, parce que justement dans les value-based supply chain aux États-Unis, cette notion d'être solidaire dans la chaîne de valeur avec un S, hein, donc, c'est pas la chaîne de valeur comme en France où souvent il n'y a pas de S à valeur, c'est la chaîne de valeur avec un S, il y a des valeurs qui sont liées à la solidarité, à la juste rémunération, à l'entente entre les producteurs. Et cette chaîne de valeur, elle court du producteur jusqu'au transformateur, au distributeur et au consommateur. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'arrive pas bien à faire en France encore, sur lesquels on commence à réfléchir. Et moi, j'ai des gens qui viennent me chercher justement pour réfléchir sur comment impliquer le consommateur dans ces chaînes de valeur. Mais avec cette idée que ces valeurs-là, elles étaient sur la juste rémunération. Et nous, quand on a travaillé la notion de SIAM, on voyait émerger ça. On commençait à avoir ces discussions qui émergeaient en 2015-2016. Et on s'est dit, finalement, cette question de la juste rémunération, c'est un truc qui est un peu changeant. Ça change un peu dans les questions de rémunération parce qu'il y a un accord sur comment on rémunère. Alors certes, c'est pas encore du commerce équitable. Le commerce équitable est arrivé après. Dans les discussions, c'est arrivé vers juste pendant le confinement, en fait. Mais sur comment on rémunère, on discute de comment on rémunère. Et on discute avec l'agriculteur de quels sont ses besoins. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y arrive à tous les coups. Par exemple, si on prend le cas des éleveurs de saveurs iséroises, qu'on a étudié dans le cadre du projet SIAM, il y avait des circuits sur la commercialisation de la viande qui étaient extrêmement rémunérateurs, soit parce qu'ils étaient portés par la collectivité, soit parce que le distributeur jouait le jeu. Par exemple, un supermarché qui, pour son rayon boucherie, allait jouer le jeu. Puis il y avait des circuits où c'était un peu moins rémunérateur. C'était plus compliqué. La négociation avec les distributeurs, notamment certaines GMS et certaines centrales d'achat, pour le dire, parce que c'est différent de négocier avec un directeur de magasin et de négocier avec une centrale d'achat. Là, ça devenait moins rémunérateur. Mais les producteurs, ils sont quand même allés, enfin les éleveurs, ils sont quand même allés à un moment donné, parce qu'il fallait vendre une partie de la bête qui ne se vendait pas dans les circuits traditionnels de la restauration collective. Donc, voilà, tout ça, ça faisait des ensembles, ça se discutait, enfin, on voyait des choses qui émergeaient. Et donc, on a formalisé cette notion-là de ce cahier des charges du bien et du lien, qu'on a aussi dit cahier des charges complet, en fait, pour exprimer cette volonté, en fait, qu'on voit émerger de qualifier pas simplement le produit, pas simplement ses caractéristiques, pas simplement ses modes de production, mais aussi les relations entre les producteurs et les autres opérateurs dans la chaîne. Voilà. C'est juste.
Je pense qu'on peut peut-être ouvrir à... Et parce que ce que tu dis va faire la transition avec les circuits intermédiaires et circuits longs, donc peut-être prendre des remarques ou des questions que certains ou certaines d'entre vous auraient avant de se lancer dans la deuxième partie de l'entretien. Si vous avez des remarques, oui.
En fait, ça dépend. Oui, bien sûr. On revient sur l'espèce de difficulté de quadrature du cercle de à la fois rémunérer le producteur et donner de l'accessibilité au consommateur. C'est ça?
Nos variables, c'est toujours celle-là. C'est soit le producteur, soit le consommateur.
Oui, d'où l'intérêt du politique. Ah oui, oui.
Et du coup, ça n'a pas été réparti. Ça n'est pas réparti sur l'ensemble, en fait.
Oui, effectivement, ça demande un effort de la part des intermédiaires, c'est ce que vous voulez dire?
Voilà, et en plus de ça,
bien sûr.
En fait, en faisant ça, dans la filière longue, nous, c'est ce qu'on a travaillé dans les années d'avance, c'est en fait, cette filière longue, elle ne paye pas toutes ces externalités négatives.
Bien sûr.
Oui. J'entends le fait de monter ces cahiers des charges, de réfléchir à ça, mais je trouve qu'en fait c'est opposer deux systèmes avec pas les mêmes règles du jeu et du coup ça va toujours rester des alternatives. En fait.
Oui. C'est des alternatives. Alors pour le coup, dans ces cas-là, moi j'irai pas jusqu'à dire totalement politique, parce que c'est quand même des systèmes qui sont intermédiaires et dans lesquels on peut avoir des. Pour le coup, dans les SIAM, dans ce qu'on a étudié, on peut avoir des opérateurs, des circuits longs. Par exemple, on a étudié des circuits avec Sodexo, bon, pour ne parler que d'eux, dans lequel il y avait aussi une attention sur certains types de production achetée au prix. Et donc, pas de négociation sur le prix avec les producteurs. Alors que sur d'autres circuits, ça ne se passait pas du tout comme ça. Ça passait par les grossistes habituels et du coup, le prix était tiré au maximum. Au plus bas. Mais c'est des choses qui émergent aujourd'hui, qui vont peut-être être remises en cause. Hein. Moi, je ne dis pas que ça va rester comme ça, notamment par la crise actuelle qu'on est en train de vivre et les questions d'accessibilité qui deviennent de plus en plus importantes. Mais par exemple, on a vu aussi un cas dans le Rouennais, sur le steak haché 100% du Rouennais, le charolais 100% du Rouennais, où là, ils avaient posé un petit macaron, effectivement, mais je suis d'accord avec vous, hein, mais un petit macaron où on avait la répartition de la valeur tout au long de la chaîne. Donc, sur les 100% que coûtait le produit, on savait combien de pourcents allaient au producteur, combien de pourcents allaient au distributeur, etc. Et ça a été un succès phénoménal en termes de vente. Alors, ça s'est vendu extrêmement bien. Mais je suis d'accord que ça ne change pas le modèle agro-industriel.
Rediriger les gens, pour moi, c'est comme vous mettez ça dans la tête.
sûr.
Et donc, en fait, on se retrouve avec des circuits courts, et pour le bio, c'est pareil, on s'est retrouvé avec des trucs bio vendus au prix du conventionnel, parce qu'il y a notre surmarché, parce qu'on n'a pas organisé la filière. Donc, en fait, moi, je ne sais pas répondre, hein, c'est ces filières-là, elles sont montées comme des alternatives, et en fait, on n'arrive pas à leur faire prendre du volume ou de la masse.
Non, mais moi je suis complètement d'accord avec vous, on n'arrive pas à leur faire prendre du volume, ça reste des choses qui sont qui vont émerger, qui vont avoir une certaine viabilité, qui sont très incertaines. Enfin, typiquement sur les SIAM, on a vu cette question d'être sur des systèmes incertains qui pouvaient à un moment donné risquer de s'effondrer parce qu'un distributeur jouait plus le jeu, très clairement. Et pour moi, je le redis, hein, mais pour moi, l'intérêt, il est là sur la question du politique. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que le politique va se saisir de ces alternatives, de comment il les soutient, à quel moment il les soutient, et notamment au travers des projets alimentaires territoriaux. Non, mais je sais, les élus font... Certains font cette remarque, pas tous, parce que moi, je travaille aussi avec des élus et ils font pas tous cette remarque. Et oui, c'est vrai, les modes d'intervention des élus dans le modèle économique sont extrêmement complexes, ils sont pas simples, mais ils existent. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend une volonté politique... Mais on peut quand même faire jouer les choses. On fera jouer les choses à la marge. De toute façon, le marché libéral mondial, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour qu'il s'arrête, quoi. Honnêtement, je n'ai pas la solution là-dessus.
Mais mon sentiment, c'est que de toute façon, on n'a pas bien le choix dans la mise en place de ces filières. Il va falloir y arriver, puisque... avec les enjeux qu'il y a en ce moment, donc pour reprendre l'exemple des Monts du Lyonnais, en gros, il y a un quart des exploitations qui disparaissent tous les 10 ans, donc sur ces 20 dernières années. Il y a 60 et quelques pourcents d'actifs agricoles en moins sur 20 ans. On a perdu 2/3 des actifs agricoles. On voit une préoccupation au niveau de la gestion de l'eau, où plein d'agriculteurs ne savent pas comment ils vont faire avec la ressource en eau qui baisse. Bref, la grosse cata pointe à tous les niveaux, je trouve, sur ce sujet-là. Donc, avec les enjeux actuels, si on veut se nourrir, avoir une agriculture, si les territoires veulent avoir une agriculture forte pour être nourris, va falloir les mettre en place, ces filières. Donc peut-être l'accélération va être un peu soudaine quand la maison sera en feu, je ne vois pas comment on ne peut pas aller vers... on sera forcé de les mettre en place, hein. Ça se fera sûrement dans la douleur, mais on sera forcé de mettre en place ces filières. Et c'est aujourd'hui, donc on accompagnait les collectivités en début d'année, où ces filières justement intermédiaires essayaient de sortir de ces alternatives. En tout cas, il y a une prise de conscience qu'il faut y arriver. Donc après, bon, est-ce que les choses se font derrière, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a une véritable prise de conscience parce qu'on voit le tissu agricole se déliter, des préoccupations au niveau du changement climatique qui sont super importantes. Quand on voit, il y a des projets pharaoniques dans les Monts du Lyonnais pour essayer de se connecter au Rhône pour avoir de l'eau. Mais j'imagine que tout le monde va essayer de se connecter au Rhône pour avoir de l'eau. À quoi va ressembler le Rhône dans une vingtaine d'années, hein, pas grand-chose. Donc voilà, on imagine bien que les choses vont évoluer fortement et qu'il y aura besoin de pas mal de monde pour accompagner et structurer ces filières. Et là où effectivement on a sans doute besoin du politique pour aller vers des choses qui ne sont pas hyper rentables tout de suite, on a du mal à amener les entreprises, bien que si elles souhaitent développer également leur appro local, va bien falloir qu'elles s'y mettent aussi un peu dans la durée.
Et juste pour terminer là-dessus, en termes de mode d'intervention du politique, moi je vois deux choses quand même essentielles. La première intervention, c'est autour de la structuration d'un bassin d'approvisionnement qui passe par la préservation des ressources du territoire pour pouvoir cultiver, tu le disais, hein, et pour pouvoir cultiver de façon à résister au changement climatique, à éviter de l'accentuer, etc. Mais aussi pour pouvoir transformer. Et là, justement, le politique a un rôle à tenir pour par exemple, financer des structures alternatives, des légumeries, des abattoirs locaux, pour pouvoir retransformer sur un territoire et connecter des agriculteurs et ces transformateurs sur le territoire, parce que ça, c'est quand même encore compliqué. C'est aussi, dans cette structuration d'un bassin d'approvisionnement, se dire que on va faire attention aux fonciers agricoles, parce que tu le dis, mais je crois que c'est en France, je crois que c'est 50% d'agriculteurs en moins dans 10 ans, ce qui est prévu. Enfin, c'est 200 000 au lieu de 400 000, hein, donc c'est quand même une baisse énorme. Donc c'est faire attention à ça, à l'installation, etc. Et puis c'est aussi intervenir dans des modes de régulation à leur échelle, à l'échelle du territoire, c'est se positionner dans des modes de régulation au sein de filières. C'est compliqué. Et le dernier mode d'intervention que je verrai dans un monde idéal, c'est la question de l'accessibilité autour, effectivement, du financement d'une accessibilité. Et clairement, idéalement, on pourrait imaginer qu'on taxe un peu plus les produits agro-industriels et qu'on soutienne un peu plus les produits sains. Ou en tout cas durable.
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la manière de communiquer sur les contenus, je crois que tu évoquais le fait que savoir comment attirer la clientèle vers les contenus de l'énergie auto, pas seulement dire que c'est local, mais dire qu'il y a deux critères de qualité, justement.
Alors, l'étiquetage, hein, nous permet pas d'aller aussi loin dans le rendre compte. Alors, il y a des étiquetages intéressants, je pense à dans les épiceries lyonnaises, il y avait eu un étiquetage qui avait été mis en place par plusieurs structures où en un coup d'œil on voyait c'était un hexagone où il y avait plusieurs points qu'on essayait de rejoindre pour voir au niveau de la quantité de déchets, au niveau du côté local ou pas. Bref, en un coup d'œil on arrivait à analyser différents critères, mais non, ça ne suffit évidemment pas. Ce qui marche le mieux finalement, c'est plutôt le côté humain, c'est-à-dire quand on arrive à faire connaître la production finalement au bassin de consommation, aux consommateurs, quand on arrive à la relier par de l'événementiel par exemple, par des fêtes, quand on arrive à connecter ça, où là on sent bien qu'on développe l'attrait des consommateurs pour cette marque-là ou ce qu'elle représente, mais ça va au-delà de la qualité des produits, hein. C'est même tout le territoire qu'on retrouve là-dedans, c'est-à-dire pour les gens, c'est aussi les emplois locaux, c'est d'avoir des villages vivants, c'est d'avoir des paysages, de jolis paysages. Ça va au-delà de la qualité, finalement, si ceux qui achètent, en tout cas pour ce que je connais de cette marque-là, va au-delà du produit en lui-même. En fait, c'est autre chose qui est recherché de beaucoup plus large, et on essaye de communiquer sur ce plus large aussi. On essaie de faire comprendre aux gens l'importance qu'a la présence de l'agriculture pour les habitants des monts du Lyonnais. Et on aimerait, nous on représente Peanuts, hein, le faire comprendre aussi à la métropole lyonnaise. Donc on interroge les élus pour ça, mais l'importance du lien de la métropole avec ses terroirs, notamment Lyon sans ses terroirs, pour se nourrir, ce sera compliqué. Et malheureusement, comme ce n'est pas le même territoire administratif, on a un mal de chien à travailler avec eux, alors qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire. Quand je vois la Dombe, par exemple, tomber en décrépitude, alors que c'est quand même un système productif formidable, et que la métropole ne s'en occupe pas pour essayer de faire en sorte que ce soit de développer cette zone de production pour approvisionner Lyon en poissons ou autre. Les monts du Lyonnais, quand je vois les difficultés qu'on a pour faciliter l'installation, transmission des exploitations et on devrait avoir des faisceaux, des flux de nouveaux installés pour reprendre les exploitations qu'on n'arrive pas à transmettre, venant de des métropoles, en fait, qui sont finalement pour moi les alliés de la production à tout niveau, à la consommation, mais pourquoi pas aussi à l'installation. Enfin, en tout cas, cette question du lien au territoire, dans son aspect plus global, est vraiment importante, au-delà même du produit, quoi. C'est tout ce qu'il y a aussi, la qualité de vie qu'il peut y avoir derrière, quoi.
Peut-être qu'on peut enchaîner sur la deuxième partie de notre présentation et évoquer ce que tu annonçais sur les circuits intermédiaires et en même temps faire aussi davantage l'écho ce qui apparaît un peu les enjeux globaux versus les enjeux locaux. Et là, Gilles, peut-être que tu pourras plus intervenir, notamment avec à la fois ton atlas de l'alimentation et en même temps ton livre sur local global. Donc peut-être Carole, d'abord sur le circuit intermédiaire, les SIAM, un peu que tu as commencé à aborder pour expliquer un peu en quoi c'est une solution alternative. Et puis après, Gilles, peut-être sur circuit court versus circuit long, donc mondialisation peut-être locale, globale.
Oui, alors juste, donc cette notion de SIAM, elle est née vraiment un peu par hasard, on va dire ça comme ça, parce que on a un collègue américain de l'Oregon qui est venu à l'ISARA et qui a commencé à nous parler de l'agriculture du milieu. Donc nous, on ne savait pas ce que c'était l'agriculture du milieu. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air quand même vachement intéressant. Et là, il nous a expliqué que l'agriculture du milieu, c'était une théorisation qu'avaient donc formulée notamment certains chercheurs dans le groupe dans lequel il était, pour essayer de réfléchir à comment sauver aux États-Unis une agriculture qui n'était pas celle extrêmement grande du mainstream et qui n'était pas celle plus petite des circuits, des marchés locaux. Parce qu'aux États-Unis, il y a énormément de marchés locaux autour des grandes villes et notamment de certaines grandes villes, celles de l'Ouest et celles de l'Est, en fait, hein, voilà, qui sont très connues, dans lesquelles les Américains les plus riches et les plus cultivés vont acheter leurs produits locaux. Et puis, il y avait ces fermes de taille intermédiaire qui disparaissaient. Voilà, qui étaient souvent situés dans le centre des États-Unis et qui disparaissaient, et donc qui ont cherché à mettre en œuvre un modèle pour commercialiser leur production, tout en se disant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de cette production? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des Américains, donc ils ont mis en place des modèles marketing extrêmement bien fichus, avec des coopératives. Donc, par exemple, dans la coopérative américaine d'agriculture du milieu, vous pouvez avoir des fermes qui sont dans des états un peu limitrophes, qui sont de taille à peu près identique, des grandes fermes, hein, pour nous, et qui vont commercialiser leurs produits par colis, souvent, le plus souvent, c'est des colis qui commercialisent dans toute l'Amérique. Et pour créer ces accords, ce qui caractérise donc ces commercialisations, c'est des partenariats qu'ils appellent stratégiques, gagnant-gagnant, éthiques, etc., qui se passent entre le producteur, les distributeurs, les transformateurs et le consommateur, c'est ce que je disais, et qui vont donner finalement au producteur dans la chaîne un statut un peu particulier, qui est celui de ne pas être interchangeable. C'est-à-dire que le consommateur, il va acheter à un producteur bien précis, qui connaît, même s'il ne l'a jamais vu de sa vie, il le connaît très très bien. Et ça, je peux vous dire, pour avoir regardé les sites américains, ils sont très très forts en marketing, il le connaît très très bien. Il le connaît bien mieux que n'importe quel consommateur français qui va acheter en circuit court à un producteur. Parce que le producteur américain, sur le site, vous voyez sa vie, de 8h, de 6h du matin jusqu'à 20h le soir, vous voyez sa famille, vous savez ses modes de production, vous pouvez recomposer exactement toute son existence, vous pouvez presque vivre avec lui. Donc vous achetez son produit, vous achetez à lui. Donc les Américains parlent d'un food from somewhere régime, d'un food from someone régime, plutôt que d'un food from somewhere régime, parce que vous achetez à la personne, malgré l'intermédiation marchande. Et ça, on a trouvé ça super intéressant et on s'est dit, mais c'est vraiment intéressant comme modèle et comme conceptualisation. Et les Américains appellent ça des value-based supply chain. Donc c'est ce que je disais avec un S pour valeur. Parce que ce qui fonde la chaîne, c'est les valeurs entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et le consommateur. Donc notamment des valeurs de partage de la rémunération, de solidarité. Quand il y a un problème quelque part, ils sont solidaires entre eux. De transformation aussi pour aller vers des produits de qualité, de changements de pratiques en termes agroécologiques, etc. La plupart sont bio dans ces systèmes-là. Donc c'est quand même aussi voilà, un modèle qui nous a paru intéressant. Et on s'est dit, bah, on va voir ce que ça donne en France. Et donc, bon, agriculture du milieu, c'était facile de trouver système alimentaire du milieu pour le cas français. Et donc, SIAM, ça marchait bien. C'était le moment du dépôt des PSDR, des quatrièmes programmes PSDR. On s'est dit, on va déposer un projet qui s'appelle SIAM. Et on est parti avec mon collègue Laurent Joyer de la Chambre régionale d'agriculture, un peu comme larron au foire, en se disant, mais quand même, on fait un peu un truc, on se demande où ça va nous amener, cette histoire-là. Est-ce qu'on va les trouver, ces SIAM, sur les territoires? Déjà, on n'était même pas sûr de les trouver sur les territoires à l'époque. C'était en 2015. On n'était pas sûr de voir ces chaînes intermédiaires. On n'était pas sûr de voir ces systèmes de partenariat se mettre en place entre les opérateurs, etc. Et on est parti sur quatre territoires, donc le Rouennais, l'Isère, le Rhône et... il m'en manque un. Les Deux-Savoie, ça me revient. Je te regardais ça, tu ne sais pas en fait. Et ça me revient. Donc les Deux-Savoie. Et là, on a vu des choses très très intéressantes, et notamment sur le cas de l'Isère, où on voyait des choses qui émergeaient parce que l'Isère avait développé une politique alimentaire bien plus ancienne que les autres territoires. Et donc il y avait beaucoup plus de choses, c'était beaucoup plus dynamique. On se disait, mais pourquoi ça bouge plus en Isère qu'ailleurs? Et il y avait beaucoup plus de choses. Mais il y avait des choses aussi sur le Rouennais qui émergeaient, qui étaient intéressantes. Il y avait donc cette chaîne avec cette société de restauration collective sur le Rhône. Il y avait des légumeries qui étaient en train de se monter, qui étaient portées par des entrepreneurs et pas des territoires en Savoie. Donc voilà, on a regardé tout ça et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces SIAM? Et finalement, on a formalisé cette idée qu'en France, un SIAM, c'était avant tout une démarche. Excusez-moi. C'était une démarche, c'était un projet collectif. Et c'était le projet de monter un collectif hybride entre des acteurs issus de différents acteurs, hein, donc des agriculteurs, des transformateurs, des distributeurs, pouvant être issus de mondes alternatifs ou conventionnels, qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais qui développaient une volonté. Et cette volonté, c'était la volonté de se reconnecter. Et de se reconnecter à une échelle de proximité qui n'était pas une échelle de proximité forcément géographique. La notion de géographie existait, mais dans le sens de bah, quand on est proche, c'est quand même plus facile, mais pas forcément dans un sens territorial. Sauf dans le cas de l'Isère, où l'Isère est entrée dans le processus de régulation. Et là où ils ont porté finalement, ou le Rouennais aussi, où le politique est entré dans le processus de régulation et a porté littéralement ces chaînes-là. Mais dans d'autres cas où le politique n'entrait pas dans ces chaînes-là, bah, c'était sur des distances finalement qui arrangeaient les opérateurs. Avec la question de construire ce partenariat et de le construire parmi toutes les incertitudes que ça pouvait déployer auprès des opérateurs. Parce que quelque part, faire SIAM, c'est ce qu'on a appelé dans un article là, qu'on a sorti récemment, faire SIAM, c'est transformer tous les opérateurs à tous les niveaux. Alors les agriculteurs, ils vont changer de pratique, les transformateurs, bah, ils vont aussi changer de pratique. Dans les sociétés de restauration collective, dans la cuisine, bah, il va y avoir des changements parce que bah, traiter une patate qui vient du près d'à côté, bah, c'est quand même plus compliqué que traiter, ouvrir un sachet, qu'il faut décontaminer un certain nombre de choses, etc. Donc il y a des changements de pratiques un peu partout qui vont s'installer. Ça peut créer des incertitudes, des difficultés dans la reconnexion, avec des moments, des gens qui vont se déconnecter, qui vont partir de la chaîne, d'autres qui vont revenir. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté qu'on a analysée, c'était effectivement celle dans comment on crée ces régulations, hein, autour de quoi on crée ces régulations et autour de quel cahier des charges. Et c'est là qu'on a vu la mise en place de ces cahiers des charges qui pouvaient être portés soit par la démarche elle-même, hein, bon, par exemple les éleveurs de saveurs iséroises, quand ils ont développé leur cahier des charges, ils l'ont développé eux-mêmes, soit par une collectivité, le Rouennais ou l'Isère, qui la mettent en place des cahiers des charges sur lesquels ils annoncent un certain nombre de choses, et pour être labellisé par le cahier des charges et par la marque, il faut quand même rentrer dans les critères du cahier des charges. Et c'est là-dedans qu'ils peuvent jouer sur des régulations, en labellisant, en fait, très clairement, pas autrement. Mais on a trouvé ces modèles qui émergeaient, on était contents, et donc on a construit des outils ensuite pour les accompagner. Mais je peux vous dire que les deux premières années, on se disait, mais vraiment, est-ce qu'on va trouver des trucs? Parce qu'on n'est pas complètement cinglé. Et après, on s'est dit, on va construire des modèles pour accompagner ça, enfin des outils pour accompagner ça. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils sur comment construire ce cahier des charges, comment construire le système d'acteurs, etc. Donc ça fait partie de résultats PSDR. On a mis en place un jeu, voilà, pour essayer justement d'apporter des outils à ceux qui souhaitaient en fait développer ces systèmes. comme des alternatives ou comme autre chose. Mais les SIAM sont beaucoup moins des alternatives politiques, parce que c'est beaucoup moins militant. C'est notamment beaucoup moins militant parce qu'un grand nombre des agriculteurs qui sont rentrés dans ces démarches, c'était des agriculteurs issus des circuits longs, qui étaient dans des situations de crise extrême et qui ont vu ça comme une possibilité de continuer à travailler.
Moi, ce que je vois du côté des consommateurs, c'est en comparant ce que j'ai écrit il y a 10 ans et ce que j'écrirai aujourd'hui, c'est que en fait, les circuits courts et intermédiaires, ils résolvaient un problème de santé, enfin des problèmes de santé, parce qu'on sortait quand même de plusieurs crises sanitaires. Voilà. Alors, même s'il y en a encore récemment, mais celles qui sont récentes n'ont pas fait de mort, contrairement aux précédentes. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que ce circuit court, il allait avec le bio et que, au fond, ceux qui veulent manger correctement sans s'empoisonner, ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Exactement comme ceux qui veulent fumer et qui voient sur leur paquet que fumer tue. Mais, donc ça, je comprends que c'est aujourd'hui, on est dans quelque chose de complètement différent, à mon avis. Vous avez évoqué la question de l'eau. On va être dans une problématique qui, à mon avis, environnementale, et qui va être avec la succession de sécheresses et la panique que ça provoque, justement, sur la question de l'eau et des quantités de nourriture qu'on va pouvoir produire avec moins d'eau. Là, je crois qu'on va voir apparaître un autre discours qui sera... De mettre en accord ce qu'on mange avec évidemment la santé de la planète. C'est plus ma santé, mais c'est la santé de la planète. Et je pense que là, les politiques auront un levier plus important, à mon avis, que ce qui pouvait toucher la santé personnelle, quoi. Parce que là, chacun, au fond, a une approche du bio qui faisait que, il y a des gens pour qui c'était pas important et pour d'autres aussi. Alors que là, on est dans quelque chose qui peut se mobiliser politiquement et qui va faire que... On pourrait voir, contrairement peut-être à un mouvement qui est actuellement de réflexion sur l'avenir de cette production, quelque chose qui serait un palier avant un deuxième saut, à mon avis. Hein.
Oui, et là-dessus, sur cette question de palier, effectivement, est-ce qu'il y a un saut qualitatif, quantitatif à avoir à... finalement, dans ton atlas, tu dis à un moment donné que la mondialisation a finalement amené un déclin dans l'essor des plantes, des légumineux, et que finalement les échanges ont réduit drastiquement et qu'on se base plus que sur 3 céréales, le blé, le maïs, si j'ai oublié la dernière, l'orge peut-être, j'ai aucune idée, 3, et que finalement la mondialisation amène finalement à une uniformisation des pratiques alimentaires et que peut-être il faut revenir vers du local parce que on avait, alors là je parle en siècle, on avait donc c'est la perspective du historien, désolé d'en venir là, mais qui amenait finalement à plus de diversité avec moins de déplacements, moins d'échanges de cultures. C'est un peu ça que t'es ok.
Oui, on voit ça dans la viticulture, hein, où aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens vis-à-vis de la crise climatique actuelle qui cherchent des nouveaux cépages, qui essaient de voir si justement il y a des solutions locales qui peuvent régler le problème. Je ne sais pas si ça peut aller loin, mais c'est vrai qu'il y a effectivement cette approche qui consiste à dire il y a des solutions locales avec des produits qui seront un peu plus localisés, un peu moins. C'est vrai que ça tombe dans un débat qui est le même que celui qu'on a actuellement sur ce qu'on a perdu au néolithique. Vous savez, c'est cette idée qu'au néolithique, avec l'agriculture, l'alimentation, c'était en fait, en améliorant les stocks, on avait donné davantage de confort. C'est possible, mais en réalité, on pense que justement, en réduisant le nombre de plantes auxquelles on avait accès, sans parler des animaux, et ben on a été moins résistant face aux maladies, puisqu'on se nourrissait moins, de manière moins diverse. J'ai un exemple actuellement au Sri Lanka, qui est quand même un pays très pauvre, dans lequel les femmes qui travaillent 8 heures par jour gagnent 3 euros pour faire le thé vert qu'on aime bien. Ben, dans ce pays-là, où l'espérance de vie est quasiment la même que celle des États-Unis, c'est un pays riche quand même, il y a un an d'écart, je crois. Dans ce pays-là, où je ne parle pas des Colombo et des villes, mais dans les campagnes, où les gens ont accès à des plantes de la forêt ou des pseudo-forêts qui sont en train de se reconstituer parce qu'au fond, les Anglais, pour faire le thé, ont dévasté Sri Lanka. Ils ont fait exactement ce qu'on est en train de faire avec les soja au Brésil. Bon. Donc là, il y a des Sri Lankais qui reconstituent la forêt. Et on s'aperçoit, enfin moi j'ai fait des études dans des villages où les gens n'ont pas accès à la nourriture industrielle. Il n'y a aucun cas de Parkinson et d'Alzheimer. C'est impressionnant. C'est vraiment, là, on voit qu'il y a une maladie des civilisations. Voilà. Et donc, finalement, ces choses-là, ce retour à la diversité, au fond, va peut-être aussi se coupler avec cette angoisse qu'on a tous de mourir en mangeant.
Mais sur les initiatives, on évoquait tout à l'heure sur la difficulté de mettre en place les filières et d'être dans des alternatives et autres, ce que tu évoquais tout à l'heure, Étienne, il y a quand même, je trouve, beaucoup d'initiatives, de coopératives, de petites coopératives. Alors, on dit qu'on recrée les coopératives qui avaient été créées dans les années 50-60 ou un vote des choses, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qui se font, qui sont peut-être à des échelles qui font que c'est moins repérable, mais en tout cas avec leur multiplication, peut-être que c'est justement ces côtés un peu plus massifiés viendront aussi d'un aggloméré d'initiatives qui sont à des échelles un peu moins importantes que les grosses COP actuelles. Mais en tout cas, à force d'entendre ici ou là, dans les territoires, des témoignages sur des coopératives qui montrent des choses, en tout cas, moi je finis par me demander si finalement, en agglomérant tous ces petits ruisseaux, il n'y a pas quand même quelque chose de conséquent et significatif, mine de rien.
Oui, moi je pense qu'il y a énormément d'initiatives, d'innovations, même dans le renouvellement des générations en agriculture. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui se font, des nouveaux modèles qui émergent. Et c'est quand même une chance. Déjà, c'est une chance sur notre territoire, parce qu'on est quand même un territoire sur lequel il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup de circuits courts, le premier magasin collectif, etc. Bon, c'est pas partout pareil, hein, parce que ici on a des ressources, c'est quand même assez facile de penser une relocalisation de l'alimentation. C'est plus compliqué dans d'autres territoires qui sont plus spécialisés, hein, soit pour des raisons simplement de terroir, parce que c'est comme ça et qu'on fait pas autre chose, soit parce que l'industrialisation a fait que c'est devenu un bassin de production pour telle ou telle production. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Gilles, sur le fait que, évidemment, cette industrialisation, elle a réduit la diversité des plantes, elle a réduit la diversité des semences, elle a adapté des semences, on le sait, hein, au développement agro-industriel, notamment pour que les plantes soient résistantes, mais aussi pour qu'elles résistent aux pesticides, etc. Bon, forcément, tout ça, ça a existé. Et ça, c'est une inertie contre laquelle c'est extrêmement difficile de lutter. Mais sur certains territoires, on a des possibilités, c'est certainement plus facile. Et peut-être que c'est un peu ces idées de niche et puis ensuite de chemin, hein, et de trajectoire pour l'innovation qui font que, à force, ça finit par faire des choses plus importantes. Et c'est quand même intéressant de voir toutes ces initiatives qui émergent aujourd'hui en termes d'alternatives. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles viennent de tous les niveaux. Elles viennent des agriculteurs, elles viennent aussi de certaines façons de transformer, elles viennent des consommateurs, elles viennent du monde citoyen. Aujourd'hui, de plus en plus, le monde citoyen aussi se saisit de ça. Je ne sais plus qui parlait de tiers-lieux là, tout à l'heure, mais la question des tiers-lieux alimentaires, etc. Bon, c'est quand même des choses qui sont intéressantes aussi. autour de ces initiatives citoyennes. Encore, c'est des transitions. On ne va pas changer tous les systèmes agro-industriels avec ça. Mais si on regarde un peu en termes de globalisation, moi, je ne connais pas bien les pays en Afrique, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, on est à peu près à 70% de nos achats qui viennent de l'agro-industrie. 70-75, si je ne me trompe pas. Aux États-Unis, au Canada, ils sont à 90-95. Donc on a quand même gardé toujours, peut-être culturellement, une certaine marge de manœuvre qui fait aussi que ça suscite ces innovations.
J'ai essayé d'être un peu positif aussi parce que dans le boulot, ça aide sur ces coopératives. Mais on peut aussi être un peu négatif sur la question aussi du renversement de la valeur de ce que serait le bien finalement. Est-ce qu'avec les événements du moment, le bien ne sera pas l'hyper-productivisme pour assurer notre sécurité alimentaire ? Je repense à la question du hors-sol, où il fut un temps où le hors-sol, on pompait beaucoup d'énergie pour produire un hors-sol, c'était vraiment pas terrible. Maintenant, j'entends le hors-sol, au moins, on sait ce qu'on met dedans, c'est plutôt sain, finalement. Donc, c'est question de valeur, et si ça se trouve, avec le contexte du moment, donc on parlait de l'actualité avec ce fameux chèque qui va être fait par le gouvernement, qui devait aller au soutien au circuit court, et qui maintenant va être fléché pour GMS ou autre, qui va être un virement sur le compte d'individus. Tout ça pour dire qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des renversements de valeurs forts. Bon, après, on peut se douter qu'il y aura quelques limites posées par la planète, certes, mais en tout cas, peut-être que dans quelques années, on vantera les systèmes hyper productivistes, hyper spécialisés des monts du Lyonnais, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu déjà, peut-être que ça reviendra, je ne sais pas. Mais voilà, il y a aussi ces questions d'inversion de valeur qui font parfois froid dans le dos aux acteurs que nous sommes, qui peuvent enfin, parfois voir des choses se retourner comme une crêpe en finalement là très peu de temps.
Non, on est toujours très 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 inquiet de voir qu'en fait on est parfois contraint à des changements assez radicaux, mais il faut savoir que les bœufs du Charolais qu'on regarde depuis le train ou qui nous regardent passer en train, il y a 150 ans, ils n'étaient pas là, ça n'existait pas. C'est la spécialisation de viande de la région s'est faite avec l'arrivée des grains américains. Là, c'était de la polyculture, c'était les monts du Beaujolais. Et c'est devenu en 20 ans ce que c'est, c'est-à-dire la région qui produit de la viande. Est-ce que ça peut se retourner? Est-ce que, par exemple, avec le coût environnemental de la viande de bœuf, on pourra un jour peut-être... Je ne sais pas, mais vous voyez, essayons de penser que ce que nous avons dans la tête du passé, c'est quelque chose qui a déjà beaucoup évolué.
On peut peut-être effectivement prendre une remarque ou une question de la salle pour enchaîner ensuite sur la question que je pense va susciter davantage d'entrain, je pense, sur la question des politiques. Dans les gens qu'il y a ici, est-ce que vous avez une question de remarque sur cette deuxième salve autour des circuits intermédiaires, circuits longs, local, global? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez évoquer? Oui, bien sûr.
Oui. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a cette idée que on a à notre disposition beaucoup de produits que n'avaient pas à disposition nos grands-parents. Hein, ça c'est clair. Maintenant, si je comment dirais-je, si je calculais la valeur nutritionnelle de ce qu'ils mangeaient et de ce que nous mangeons, nous, avec des tomates, bien sûr, qui viennent toute l'année d'Espagne, mais qui n'ont aucune valeur nutritionnelle, est-ce que vraiment il n'y a pas eu un recul quelque part? Donc il faudrait quand même qu'on calcule ça, qu'on voit, qu'on puisse faire un vrai travail. Moi, ce que je constate, c'est que des menus, j'ai étudié par exemple des menus de mariage, première communion, des années 50, hein, par exemple, hein, et je compare avec des menus d'aujourd'hui, de mariage, hein, des choses comme ça. Ben, franchement, il n'y a pas photo, hein, c'était quand même beaucoup plus varié il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que, là je parle aux historiens, quand j'ai soumis à un nutritionniste un menu des années 1880, un menu de fête, mais pas un menu de fête, en 1880, en ne disant pas d'où ça venait, hein, et sur le plan nutritionnel, est-ce que c'était correct, enfin, bon, eh bien, c'était aberrant et catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on attendait au XIXe siècle dans notre assiette n'est pas ce qu'on attend aujourd'hui dans la nôtre. Je pense qu'on ne peut pas comparer les choses parce qu'on n'a pas les mêmes informations et puis on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes désirs. Hein, on sait tous que ceux qui ont vécu la guerre ont voulu des supermarchés avec remplis de produits, voilà, mais qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui. Mais, donc voilà, je pense que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on sait calculer la valeur nutritionnelle des aliments, et je pense que c'est presque plus important que ce qu'on appelle la diversité. J'ai vu McCain, par exemple, aujourd'hui dans la presse, qui communiquait en disant que maintenant, il allait mettre c'est une firme industrielle, donc qui fabrique surtout pour les collectivités, voilà, mettre les frites dans les foyers. Voilà. Et ils expliquaient leur stratégie pour faire en sorte qu'on mange de plus en plus de frites, en quelque sorte. Voilà. C'est possible, peut-être qu'ils vont gagner ça avec le marketing et la publicité, mais est-ce qu'on y aura gagné effectivement de manger plus de frites que dans le passé? Je ne suis pas sûr.
Bon, on va enchaîner pour essayer un peu de respecter le timing, même si après on pourra discuter bien sûr pour celles et ceux qui peuvent rester. Oui, oui, bien sûr.
Tu m'embêtes. Comment te dire, j'ai pas regardé. Honnêtement, le projet, on l'a porté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin, même Rhône-Alpes, en fait, objectivement. Oui, on a eu des exemples, en tout cas des exemples de tentatives en Auvergne. Je pense qu'il y en a, évidemment, dans d'autres régions, mais dans des régions qui, je ferai l'hypothèse, dans des régions un peu comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire dans des régions dans lesquelles il y avait déjà un développement assez fort des circuits courts. Parce qu'il faut quand même avoir déjà un peu ce terreau qui permet la constitution de ces filières à une échelle un peu locale. Et si ça n'existe pas, c'est quand même plus compliqué. C'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais je ne peux pas te donner d'exemple là, comme ça, très clairement, parce que j'en ai pas étudié. Ça vaudrait le coup, hein, d'en étudier, mais on n'a pas eu l'occasion. Non. Bah si, on sait sur les circuits courts, oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, 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 non, mais ça serait intéressant. Eh bien, on essaye, mais on est tellement petit. Alors, je vais en profiter pour citer mes collègues qui ont travaillé avec moi sur SCIEM, parce que je n'ai pas été la seule. Mais on n'était pas de nombreux chercheurs, en fait. Donc, il y avait, effectivement, il y avait moi, à l'ISARA. Il y avait Ronan Levelli à Supagro Montpellier et Stéphane Fournier aussi à Supagro Montpellier. Je n'ai oublié personne. Il y avait Laurent Trognon, pardon, à Vétagro Sup. Jean-Luc Paris à Sigma, à Clermont, sur les parties un peu logistiques. Nicolas Brulard aussi, sur la partie logistique à Grenoble avec Vandat Kung. Voilà, donc on était 7-8 chercheurs en fait. Et quand le projet s'est arrêté, c'est vrai qu'on n'a pas continué vraiment à faire de la recherche là-dessus, en tout cas à faire du terrain là-dessus. On va reprendre avec l'UMR, on va reprendre une série de travaux avec l'UMR Territoire et les collègues de l'UMR Territoire. Bon, là, je ne vais pas toutes les citer toutes, mais un projet qui est porté par Salma Loudihi, qui va s'appeler Tract, sur la question des transitions. Et en portant l'hypothèse que les transitions, elles se portent plutôt à l'échelle des territoires. Et donc, on va étudier les transitions portées par les opérateurs économiques, les transitions portées par les citoyens et les transitions portées par les politiques. Et en posant l'hypothèse que c'est effectivement un maillage de ces transitions qui fait transition, en fait. Et donc là, on va avoir l'occasion de continuer à travailler un peu sur la question des systèmes alimentaires du milieu. Mais bien sûr qu'on aimerait porter ça plus au niveau conceptuel, oui. Eh bien si, il doit y avoir des choses, mais on n'a pas suffisamment étudié pour que je puisse en parler, en fait. Oui, oui, bah oui, oui. Ronan, et je sais qu'il a continué à faire un travail un petit peu sur les légumeries. Donc là, je pense qu'il y aura peut-être des choses qui vont sortir. On va en rediscuter dans le cadre du PSDR, enfin du. Maintenant c'est plus des PSDR, c'est des tétraés, là, du nouveau tétraé que lui aussi. À déposer dans sa région, donc je pense qu'on aura l'occasion de recollaborer. Mais on a eu des incitations, moi j'ai eu des incitations au niveau de l'école, on a un fonds de dotation avec des entreprises qui voulaient porter ça, porter ce concept au niveau notamment du ministère de l'Agriculture, mais bon, ça c'est pas encore fait, j'en ai discuté aussi de façon un peu fortuite parce que j'ai été invitée dans une conférence CFDT avec Emmanuel Faber, donc j'en ai aussi discuté avec lui sur le concept et il a trouvé que c'était quelque chose de très intéressant, voilà, mais bon, c'est aujourd'hui c'est voilà, on est en train de publier, les articles sont en train de sortir, voilà. Oui, complètement. Mais ça ne m'étonne pas. Oui, oui, oui. Et là, je suis en train de faire un article justement sur le rôle de l'ISER dans les SIAM, dans le portage des SIAM. Et c'est vrai que la question des échelles, elle est très intéressante parce qu'on voit bien que, par exemple, sur l'ISER, qui a porté fortement une politique de relocalisation de son alimentation, quand ils ont porté des intermédiaires, ils ont porté des intermédiaires portés par les agriculteurs. Avec toujours l'idée, quand même, quelque part, qu'un intermédiaire dans une chaîne relocalisée qui veut porter des valeurs un peu alternatives, pour faire courte, si on met des opérateurs du monde conventionnel, ça va poser un problème. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est que du coup, en portant des intermédiaires comme ça, portés par des agriculteurs, c'est des intermédiaires qui se situaient à l'échelle de leur territoire. Donc il y avait des échelles d'action qui étaient celles de l'ISER. Quand on prend, là, moi je discute pas mal aujourd'hui avec d'autres entreprises, soit des grosses coopératives, soit des grossistes en fait, hein, des entreprises de gros, qui ont des volontés de construire des systèmes alimentaires du milieu très clairement, ils sont à d'autres échelles. Ils sont à une échelle qui est plus, par exemple, l'échelle régionale. Voilà, ils se disent, bah, moi, je peux approvisionner. Et là, ça rentre. Je peux avoir 15-20 agriculteurs pour les mettre dans un système alimentaire du milieu à l'échelle régionale et approvisionner Lyon. Lyon, par exemple, la métropole. Mais la métropole, sa politique, c'est à l'échelle de 50 km autour de la place Bellecour. Et quand on commence à discuter avec eux, ils nous disent, bah oui, mais moi, à mon échelle, c'est pas celle-là. Et du coup, il y a un jeu d'échelle là qui est complexe aussi dans ces processus de relocalisation, parce qu'il faut trouver finalement des échelles qui concordent. Et trouver ces échelles qui concordent, c'est complexe. Ça ne se fait pas facilement. Et donc, du coup, ça exclut finalement, dans les processus de relocalisation portés par les PAT, un certain nombre d'opérateurs aussi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que le jeu d'échelle, en fait, ouais, rend complexe. Ah non, ça se marie. Ah oui, il se marie, oui. Après, il se marie à condition qu'ils ne soient pas totalement militants. Enfin, il y a quand même toujours un peu une difficulté chez les très militants. Mais il y a quand même des groupements de producteurs qui peuvent être considérés comme des groupements alternatifs, mais qui ne sont pas issus d'un cercle très militant, qui vont tout à fait fonctionner. Enfin, si on prend l'exemple de la société de restauration collective avec Saveurs du Coin, par exemple, qui existait jusqu'en 2019, ça a très bien fonctionné jusqu'en 2019 que Saveurs du Coin, la plateforme de producteurs, disparaisse. Et ça a été même un driver pour Saveurs du Coin, pour développer la plateforme, jusqu'à ce que finalement elle arrive à une taille qui soit un peu complexe à gérer, notamment d'un point de vue management au sein de la plateforme, et puis aussi en termes de qualité, etc., et qui a fait que ça s'est arrêté. Mais ça demande de très nombreux apprentissages, en fait. C'est arriver à retravailler ensemble à une échelle commune. Ça demande, en fait, on n'imagine pas les apprentissages que ça demande, mais ça demande des apprentissages extrêmement forts. Et c'est là aussi où la collectivité peut jouer un rôle. Parce qu'à un moment donné, par exemple, dans les éleveurs de saveurs iséroises, les bouchers les ont lâchés. Et la collectivité a pris le relais en disant « Ok, votre viande, elle n'est pas super, elle n'est pas très bien, bon, c'est pas une super qualité, vous avez pas peur. » Parce qu'ils ne savaient pas faire, les éleveurs, en fait, parce qu'ils ne faisaient pas de l'engraissement. Donc d'un coup, ils relocalisent, ils engraissent. Ah merde, je ne sais pas faire, il faut apprendre. Donc premier circuit des bouchers, agriculteurs bouchers. Le boucher leur dit « Ouais, mais vous ne me portez pas votre cahier des charges, là, il ne fonctionne pas, il est pas, vous ne me donnez pas ce que j'attends. » Et du coup, là, c'est la collectivité qui a acheté. Et si la collectivité n'avait pas acheté, ça n'aurait pas fonctionné. Donc il y a aussi un rôle à jouer aussi en termes de, bah, de sécurisation, en fait. Ah oui, oui. Ouais. Bah là, non. Ouais.
Justement, donc ça va faire la transition avec cette troisième partie, troisième question sur transition alimentaire, justement, et en même temps politique publique. On peut évoquer, tu as commencé déjà à l'aborder, hein, mais on va pouvoir évoquer aussi avec Nicolas et puis avec Gilles sur le rôle des collectivités locales. Donc j'évoquais un peu des éléments que j'ai trouvés sur notamment le Grand Lyon avec les projets alimentaires territoriaux, mais il y en a qui connaissent ça mieux que moi, donc ils pourront intervenir. Sur résilience et justice alimentaire, le fait d'essayer de conjuguer la maîtrise du foncier avec le soutien de l'agriculture biologique, avec des objectifs de passer de 5% à 15% d'autonomie alimentaire. Nicolas, peut-être que tu voudras agir sur comment ton collectif peut alimenter peut-être ce plan-là à l'horizon 2030, dans ce que j'en lis. Mais pareil, sur quand 33% des habitants de la métropole donnent la priorité ou semblent donner la priorité à la proximité du domicile dans le choix de leur achat, qu'un tiers des ménages métropolitains déclarent ne pas avoir les moyens de s'alimenter correctement, et que les grandes surfaces sont le lieu d'achat le plus fréquenté, tu l'évoquais, donc de 76% des grands lyonnais. Et puis, à l'autre échelle, c'est-à-dire, enfin, hormis le Grand Lyon, c'est la ville de Lyon, donc si j'ai bien suivi en janvier là, de cette année, qui évoquait le plan du mandat 2020-2026 de relocaliser l'alimentation avec l'accessibilité, donc tu parlais alimentaire, la justice alimentaire, voilà, les gonettes. Et proposer des prix justes pour les agriculteurs et agricultrices. Comment tout ça entre en lien, en résonance avec circuit court, circuit long, mondialisation. Nicolas peut-être, et puis après Gilles.
Oui. Alors il y a des plateformes adhérentes, il y a BioAPro par exemple qui est à Brignais, qui est une plateforme de producteurs. Nous on ne vend pas en direct les produits, c'est-à-dire que les adhérents utilisent une marque pour signifier l'origine des produits, mais ont un bénéfice de service commercialisation, mais grosso merdo ils se débrouillent à peu près tout seuls. Et si la métropole de Lyon frappait demain à la porte en nous disant « Bon, bah là, il faut qu'on passe de 5 à 15 pour lundi prochain, si possible », évidemment, vous en doutez, je rigole doucement, puisque, alors c'est peut-être des spécificités du territoire, on n'a pas de grande plaine prête à produire, à cracher sur des kilomètres. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut prendre du temps pour donc... initier de nouvelles filières, c'est-à-dire que sur ce territoire-là, soit on a des producteurs très diversifiés qui ont déjà du boulot par-dessus la tête et qui ne veulent pas prendre la moindre commande en plus, soit des gens qui sont en train de crever la bouche ouverte en des éleveurs laitiers, grosso modo, qui travaillent toute l'année en ayant à peu près, je sais pas moi, même pas un RSA mensuel, et qui, pour certains, souhaiteraient gagner davantage leur vie et entamer finalement un peu de diversification, reconversion ou autre. Mais pour ça, c'est ce que tu évoquais, ça demande un temps de fou, c'est-à-dire de structurer des groupes, d'accompagner, définir des objectifs, ci ou ça. Donc le modèle où j'appelle pour avoir mes produits pour lundi, c'est pas possible. Il y a un travail vraiment à long terme si on veut finalement créer ces filières-là. Donc aujourd'hui, ça va vers les filières, la métropole les plus faciles, entre guillemets, en céréales, arriver à trouver des céréales qui viennent de pas trop loin, c'est jouable. Mais pour ce qui est des légumes, ce qui est des fruits, c'est autrement plus compliqué. Ça demande du temps. Et donc, il faut que la collectivité investisse là-dessus. Donc, par exemple, moi, je suis persuadé que via des contrats type contrat de réciprocité ou via des systèmes à inventer, en gros, la métropole amène quelque chose dans le pot commun et les territoires productifs ruraux amènent quelque chose dans le pot commun, par exemple des produits, et en face on amène du temps de structuration de l'offre, des transports, que sais-je, pour reprendre l'Isère, qui est un département où il se passe effectivement plein de choses intéressantes, la métropole de Grenoble, qui réfléchit à des choses du type transport contre finalement loisirs, avec le Trièves qui offre des espaces magnifiques aux chers habitants de la métropole de Grenoble, et comment il peut y avoir justement des échanges pour répondre aux besoins de ces différents territoires. Donc oui, là, et je trouve qu'on part de vraiment très loin, hein. J'ai des exemples concrets où la métropole a été sollicitée sur des sujets et finalement a beaucoup de mal à travailler sur un territoire qui n'est pas le sien au niveau administratif. Dans la politique alimentaire qui a été adoptée récemment, il y a quelques années, il y a une petite ligne à la fin qui stipule qu'ils se donnent quand même la possibilité de financer des choses qui ont lieu en dehors de leur périmètre administratif. Mais on sent bien que ça en est au tout début, les PAT, les inter-PAT ou autres, enfin, sur la façon de. Enfin voilà, ça, en tout cas moi en tant qu'acteur de terrain, je le vois comme un truc vraiment bourré d'obstacles, alors que ça paraît être un peu le béaba que de s'allier et de travailler ensemble.
On va voir avec la guerre en Ukraine et en fait la sensibilité que l'opinion va avoir vis-à-vis de cette pénurie, en fait cette crainte des pénuries, ou en tout cas inflation. On va voir en quelque sorte ce qui s'est passé en 2008, parce que ces plans alimentaires territoriaux, si vous voulez, ils ont vraiment démarré au moment où on a travaillé. Il y a eu des ERC, des gros contrats de recherche. On a travaillé sur ce qu'on appelle la démocratie alimentaire. Cette idée, donc, au fond, on devait donner au sein des institutions locales des outils pour que les gens dans ces régions puissent définir, au fond, ce dont ils ont besoin pour leur sécurité alimentaire. Parce qu'on avait eu une étude qui avait été faite sur Toulouse pour dire qu'en cas de difficulté d'approvisionnement de la ville, eh bien, il y aurait des émeutes de la faim à Toulouse au bout de 3 jours. Des grosses tempêtes de neige, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Je sais qu'un collègue a beaucoup communiqué sur ces questions-là au niveau de l'armée. Et de l'armée, c'est remonté au ministère de l'Agriculture. Et les plans alimentaires territoriaux, ensuite, sont passés. Dans les idées sont passées dans les municipalités, dans les régions. Et puis, donc, on a eu ce gros travail qui a été fait par un juriste nantais sur la démocratie alimentaire, qui était cette idée qui avait été fait pour l'échelle européenne, cette idée qu'il faut sortir l'alimentation du marché, voilà, la sanctuariser, et faire en sorte que, eh bien, d'abord, ce qui est produit puisse être contrôlé par des instances qui vont faire en sorte que ne va sortir que ce qui est que ce qui n'est pas consommé localement. Voilà. Et ça n'a pas plu du tout à l'échelon européen. En revanche, le chercheur en question qui a travaillé là-dessus, qui avait piloté a été repris par le euh, euh, bah, a diffusé ce qu'il a fait dans la région Pays de Loire, où on a bâti quelque chose qui est véritablement cela. Et maintenant, on sait qu'une des raisons pour lesquelles l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a pas été construit, c'est parce qu'on avait là les meilleures terres de l'agglomération nantaise. Voilà. Donc, c'est des choses, vous voyez, qui ont comme ça fait évoluer, en quelque sorte, le regard que l'on porte sur cette alimentation en termes de sécurité, cette fois, hein, et qui implique donc les politiques.
Oui, alors, en termes effectivement, d'échelle et d'échelle de l'alimentation, enfin, il y a quand même deux choses, enfin, on peut dire une chose, c'est que déjà, le marché mondial, européen, etc., les systèmes agro-industriels, tout ça est quand même, si on enlève la partie... on va dire pollution, externalité négative, etc. Mais tout ça est quand même extrêmement efficace. Hein. C'est très bien organisé, c'est efficace, ça fonctionne. Ça alimente des villes d'un million, des bassins de consommation d'un million 300 000 habitants, quand même assez facilement, il faut le reconnaître, hein, avec des produits qui viennent de partout sur la Terre, avec des containers qui amènent des produits à des coûts extrêmement bas, avec des coûts énergétiques assez bas. Enfin bref, tout ça fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur les PAT, qui est quelque chose de très intéressant aussi, les PAT, ça a commencé en 2014, à peu près 2015, enfin la loi est sortie en 2014. Ça a émergé petit à petit, d'abord sur des très petits territoires, et puis depuis, là, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu un changement extrêmement fort entre 2020 et 2021, où on avait 6 PAT avant le Covid et en 21-44. Donc d'un coup, tous les territoires se sont mis à faire des PAT. Alors certains interterritoriaux, d'autres pas du tout interterritoriaux, certains à l'échelle d'une métropole, d'autres à l'échelle d'un département, d'autres à l'échelle d'une commune, etc. Donc tout ça, ça demande aussi de la coordination finalement. Et on se demande qui a la légitimité pour coordonner ces PAT. Par exemple, c'est un débat que j'ai eu assez régulièrement avec les responsables du PAT de l'Isère qui se posaient la question, est-ce que finalement, moi, en tant que PAT départemental, j'ai la légitimité pour coordonner les autres PAT. Ah ben non, mince. Mais comment je travaille avec les autres PAT, du coup? Parce que forcément, ça crée des complémentarités. C'est pas toujours les mêmes couleurs d'élus. Donc ça complique quand même pas mal les choses. Et puis c'est ce que tu disais, c'est à la fois des outils qui vont permettre de relocaliser sur certains points, c'est aussi des outils qui vont freiner. Sur la question de l'autonomie alimentaire, par exemple, des 15%, ça c'était un truc qui avait été instauré par le mandat précédent. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins un objectif du mandat qui existe. Par contre, l'objectif du mandat qu'on a en ce moment, c'est 100% bio dans les cantines, dont 50% local. Ça, c'est un des gros objectifs quand même de ce mandat-là. 100% bio, c'est 100% bio et 50% local. Voilà. Donc c'est quand même une partie qui vient d'ailleurs, hein. Voilà. Une partie qui vient du territoire. Voilà. Donc ça reste quand même tout ça, ça reste compliqué à mettre en place, ça reste compliqué à développer. Et effectivement, ça crée aussi des difficultés parce que comment tu travailles avec les autres, quoi. Voilà. Et ça, c'est à la fois, c'est comme tout, quoi. C'est à la fois un outil qui peut être utile et un outil qui va freiner. Et qui, c'est vrai que quand on a pensé les SIAM, très clairement, les PAT, le lien entre SIAM et PAT ne se posait pas. Parce que nous, on a pensé les SIAM comme des outils aterritoriaux, en se disant, les SIAM, c'est des modèles qui sont aterritoriaux, ils sont pas territoriaux, ils sont pas territorialisés, parce qu'aux États-Unis, une value-based supply chain, c'est pas territorialisé. C'est, voilà, ça vient de quelque part, on sait d'où ça vient, on sait qui produit, mais peu importe d'où ça vient, à la limite, c'est pas ça qui compte. Et ça va chez un producteur, chez un consommateur qui connaît le producteur. Donc le modèle, il n'est pas territorial. Et nous, quand on les avait pensés au départ, on s'est dit, en fait, c'est pas territorial. Puis on s'est bien rendu compte, avec l'émergence des PAT, avec tout ce qu'on a autour de la relocalisation, que quand même certains modèles étaient territoriaux, en tout cas, cherchaient à reconnecter ces bassins de production et de consommation à l'échelle d'un territoire.
Une anecdote rigolote, c'est de voir donc la métropole de Lyon qui veut maintenant constituer donc une régie alimentaire et installer des zones de production au sein de la métropole pour approvisionner des cantines et puis j'imagine faire des jardins pédagogiques pour sensibiliser les Lyonnais à tout ça. Moi j'ai des retours de la profession agricole qui se désespère que de voir la métropole qui cherche à finalement développer des outils productifs nouveaux alors que tout autour de la métropole, il y a des exploitations agricoles qui sont en difficulté. Donc voilà, certains qui se demandent s'ils ne sont pas foutus d'arriver à s'organiser eux-mêmes pour arriver à livrer la métropole, que la métropole va elle-même produire pour pouvoir approvisionner ses cantines. Donc je pense que c'est anecdotique en termes de volume, mais en tout cas, ça, en termes de messages envoyés, ça suscite parfois voilà, un peu de... d'interrogation, d'inquiétude, de se dire bon voilà, quand est-ce qu'on travaille, qu'on essaye de travailler davantage ensemble.
On va peut-être ouvrir le dernier banc de questions, comme il nous reste un peu moins de 10 minutes, peut-être, si vous avez des questions, des remarques sur cet enjeu plus politique, avec la métropole, la ville de Lyon, éventuellement les milieux associatifs dont Nicolas parlait, puis ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Hélène, bien sûr.
Alors,
à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, c'est, on va dire quand même que l'agro-industrie est très très puissante dans le nord de l'Europe. Hein. C'est là qu'est née l'industrie agroalimentaire avec la chimie. Ce sont des sociétés marchandes dans lesquelles les paysanneries étaient assez pauvres en fait. En Europe du Sud et la France, elle est plutôt, en tout cas la partie méridionale de la France, elle tire vers ce modèle Espagne, Italie, où là on a quand même une persistance de la paysannerie, avec des exploitations qui sont familiales. Voilà, mais bien connecté aux villes, souvent. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que vous sachiez de cochons à Parme, pourtant il y a du jambon de Parme. Il n'y a pas de vaches dans la ville de Parme, mais il y a du fromage qu'on appelle le parmesan. Hein, en fait, ça montre, si vous voulez, le lien qu'il y a entre... Alors, c'est un lien entre ville et campagne qui est fait de métayage, enfin de très forte inégalité, hein, c'est clair. Mais c'est quand même quelque chose, un rapport à l'aliment et à la terre qui se fait dans ces pays-là, de cette manière-là. Ouais. Alors qu'en France, par exemple, on aime la terre, les villes disent qu'elles aiment les campagnes en achetant des résidences secondaires. Voilà. On est les champions du monde des résidences secondaires, mais ailleurs, on achète des produits et qu'on nomme par la ville. Voilà. Alors, vous avez parlé d'Amérique latine, c'est intéressant parce que on est dans un monde complètement différent dans la mesure où les trois quarts de la population sont pauvres. Voilà. Donc vous avez d'abord une agro-industrie qui est exportatrice, hein, ou qui travaille pour les bourgeoisies locales, et puis une masse de gens qui survit tant bien que mal avec des exploitations dont ils sont chassés. Enfin, bon, voilà. Donc c'est quand même très 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 particulier. Peut-être un point qui est l'Asie, qui est qu'en Asie, nous on ne le voit pas comme ça, mais en Chine, au Japon, en Corée, il y a un attachement à la terre, un respect qui est marqué par des formes très différentes. Par exemple, au Japon, qu'on croit comme un pays urbanisé, c'est un pays très attaché à la terre par le riz. Ouais, et ils aiment dire qu'ils aiment tellement leur rizière qu'ils dorment sur de la paille de riz. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a quelque chose qui est physique dans ces régions-là, où la paysannerie est restée quand même très forte, avec des grandes villes marchandes en Chine ou ailleurs. Hein, les Chinois sont autant marchands que paysans, mais ils sont très paysans. Et c'est vrai que en Corée, en Chine, dans toute l'ère sinisée, la paysannerie est quelque chose qui est perçu comme une classe certes dominée, mais dont les produits en quelque sorte sont valorisés. Voilà, beaucoup plus que qu'en Amérique du Nord, où là on est carrément dans un modèle de ressources, hein, des commodités, on appelait ça, hein, autrefois, donc des gens qui produisent pour des industries. Hein. Il n'y a pas de paysans aux États-Unis. Hein. Il n'y a jamais eu de paysans. Il n'y a eu que des fournisseurs de matières premières. Hein.
Si, juste peut-être pour préciser sur la question de relocalisation en Amérique du Nord. Moi, je ne connais pas beaucoup l'Amérique du Nord. Hein. Je connais le Québec, parce que j'ai passé 2 ans et que j'ai travaillé un peu sur les questions d'indication géographique au Québec. Et c'était très intéressant de travailler sur les questions d'indication géographique au Québec, parce qu'en France, les indications géographiques, hein, les AOP, etc., elles sont nées d'abord pour préserver un nom et puis pour préserver de la valeur créée. Puis après, dans les années 80, on a commencé à penser les indications géographiques pour protéger du développement territorial, du développement local. Et au Québec, les indications géographiques, elles sont nées, en fait, de la volonté. Et c'est un peu triste, cette histoire, d'ailleurs, de la volonté d'un petit groupe d'agriculteurs qui était dans une région qui s'appelle Charlevoix, voilà, autour d'un agneau, voilà, l'agneau de Charlevoix. Alors, Charlevoix, c'est une région extrêmement touristique au Québec. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés. C'est une région qui est née c'est un cratère, en fait, qui est née d'une météorite qui est tombée là. Donc, c'est extrêmement beau, c'est vallonné, bref, c'est québécois. Et c'est très difficile de produire dans Charlevoix parce qu'il neige tout le temps. Enfin, c'est au nord de Québec, hein, à 2 ou 3 heures de Québec, donc ça commence à faire quand même un peu haut en termes de latitude. Il neige de, on va dire, octobre à mi-mai. Ouais. Moi, j'y suis allée en avril avec sa haute de neige, quoi. Donc voilà. Donc la production qui était extrêmement territoriale, patrimoniale, c'était de l'agneau. Et cet agneau de Charlevoix, à un moment donné, il a disparu complètement, puis il a été réimplanté pour faire du territoire, à un moment donné où les Québécois se sont remis à faire du tourisme dans Charlevoix. Parce que Charlevoix, au début du siècle, c'était une région qui était très touristique, notamment auprès des Américains, donc des Américains, des États-Unis, voilà, qui remontaient en fait par le fleuve jusqu'à Charlevoix en bateau, dans des grands bateaux de croisière, et qui avaient l'impression d'arriver en France. Parce que dans Charlevoix, il y avait une immigration française très forte, et notamment des chefs français qui avaient apporté une culture gastronomique, etc. Donc quand on a réinstallé cet agneau de Charlevoix, ça a été réinstallé autour d'une idée de faire du patrimoine, faire du développement rural, faire du développement régional. Et la première indication géographique qui a été certifiée au Québec, ça a été une IGP, l'IGP agneau de Charlevoix. Et ça l'a été dans le cadre d'une loi, hein, qu'ils ont importée en 2006, qui est une copie conforme de la loi européenne. Et ça l'a été par un tout petit groupe de producteurs. Ils étaient 10, avec une toute petite production d'agneaux extrêmement locale. Et alors surtout, ils ne voulaient surtout pas que leur production elle sorte de Charlevoix. Il fallait que les gens aillent dans Charlevoix acheter de l'IGP agneau de Charlevoix. Et évidemment, à 10, ils n'ont pas supporté les coûts de production, ça s'est cassé la figure. Enfin voilà, il n'y a plus du tout d'agneau certifié, agneau de Charlevoix, l'IGP a disparu. Et aujourd'hui, les indications géographiques au Québec, elles sont devenues, pour moi, très étranges, parce que pour le coup, très différentes de celles qu'on a en France. C'est des IGP qui vont certifier des très grandes productions. Alors par exemple, du vin, donc on a le cidre de glace du Québec. Le Québec est devenu un terroir pour le cidre de glace. Et quand vous regardez les terroirs, hein, nos idées de français, là, les terroirs, alors ils sont dispersés, il y en a là. Enfin bref, là où il y a de la production de pommes, hein, bon, c'est pareil, c'est pas partout, mais il y a de la production de pommes quand même à certains endroits. Avec le réchauffement climatique, ça remonte. Donc là, ils sont en train de ils l'ont certifié il y a quelques années, puis ils certifient des vins, etc. Mais c'est souvent à l'échelle du Québec. Donc on voit bien, et là, ce qu'ils cherchent à protéger, c'est vraiment pareil, un peu comme quand nous, on a protégé le champagne, c'est-à-dire on protège un nom, et puis la valeur qui est créée autour de ce nom, Donc on voit bien que c'est assez intéressant. Et les questions de relocalisation, enfin dans ces pays-là, c'est quand même très différent de ce que nous, on peut vivre en France, parce que déjà la notion de terroir, les gens ils ne comprennent pas. C'est aussi ce qui a joué sur l'agneau de Charlevoix. Le fait que l'agneau soit IGP, soit certifié, il y avait des fraudes, il était vendu à Montréal, par exemple, sans le logo, puisque c'était du faux, mais les gens ne faisaient pas le lien entre le logo et une certification. En fait, ça, dans l'esprit des Québécois, ça ne fonctionne pas, en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Donc voilà, ça a vraiment participé à ça. Par contre, ça marche bien à l'international, pour protéger à l'international face à des productions qui sont faites en Chine, voilà, de façon beaucoup plus industrielle, de cidre de glace du Québec. Hein.
J'aurais cité pour résumer en fait ce qu'on dit, cette diversité dont vous parlez, le cas d'un étudiant anglais que j'ai eu pendant 2 ans en master, et à la fin au moment de s'acquitter, j'ai dit alors vous êtes content, etc. Mais c'est formidable ici. Qu'est-ce qui est formidable? C'est la bouffe, c'est la diversité, vous ne vous rendez pas compte. Moi j'ai surtout aimé, je m'excuse pour vous, la bouffe plus que les études. Et non, mais c'est très important pour comprendre qu'en fait, vraiment, il y a des. Les lieux où on peut garder quelque chose qui peut devenir du patrimoine, qui peut devenir, c'est quelque chose qui est sensible de la part de ceux qui viennent d'endroits où on mange de la nourriture mondialisée.
Oui, et il y a cette tentative de relocaliser à travers ces indications géographiques un tout petit peu, et aussi dans les territoires quand même au Québec, le Québec est quand même un peu spécifique, hein, au Canada, en Amérique du Nord, il y a ce qu'on appelle les tables bioalimentaires qui aujourd'hui portent un rôle très important aux routes agrotouristiques, d'une façon très forte, ça se développe très fortement, aux produits de terroir, même s'ils ne sont pas certifiés. Donc on a énormément de produits de terroir qui sortent, à la gastronomie, au patrimoine de certaines régions qui portent une identité forte. S'il y a des régions au Québec qui portent des identités fortes, pas toutes, mais il y en a. Et donc ces tables bioalimentaires, c'est des tables qui réunissent justement tous les opérateurs de l'industrie bioalimentaire du territoire pour justement faire connaître les produits du territoire. Donc il y a quand même des choses qui se passent.
Voilà, on va terminer là-dessus sur ce désir d'aller voir nos cousins québécois. Merci. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Oui. Oui. Oui.
Il y a des gens qui travaillent là-dessus, et avec ce qui se passe actuellement sur le plan climatique, qui ont proposé que ce soit l'échelle des bassins versants. Voilà, parce que c'est l'eau qui va commander tout. Voilà. Donc il n'est pas impossible qu'on voit des agences du bassin versant du Rhône, qui vont, parce que donc là pour l'instant les glaciers sont encore, ça fonctionne encore le Rhône, mais dans les années qui viennent, ben, il y aura moins d'eau l'été, enfin donc non, donc voilà, et ça c'est une vraie proposition, et je sais qu'il y a des gens qui travaillent déjà et du coup qui vont court-circuiter les régions, les villes, les États, parce qu'il faudra gérer l'eau à l'échelle du bassin versant, parce que ça s'écoule de l'amont vers l'aval et que c'est une loi imparable de la physique. Voilà, éventuellement, voilà. Mais un rôle politique. Mais après, à quelle échelle est-ce qu'on fait, voilà, est-ce qu'on fait l'échelle du bassin versant de l'Isère ou du Rhône en tout entier? Ça, c'est encore d'autres questions. Mais ça, c'est la vraie problématique avec la sécheresse actuelle. Les sécheresses qui commencent à s'accumuler les unes. Voilà.
Merci beaucoup à toutes et à tous, et encore merci aux intervenants. Et puis donc au plaisir de vous voir à la rentrée avec des nouveaux cycles de conférences 2023, j'imagine.